Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Vous le savez, ce magazine a pour vocation de rendre plus compréhensibles et plus accessibles ces nouvelles collectivités territoriales que sont les métropoles, celle de Toulouse en premier bien sûr. Entre la commune, la communauté de communes, le département, la région et l'État, l'apparition récente de l'échelon métropolitain reste encore méconnue, voire inconnue pour beaucoup de nos concitoyens. Il nous a donc semblé important de revenir sur le processus qui a mené à leur création et sur leur raison d'être afin que chacun puisse se l'approprier. La métropole, qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi ? Métropolis, c'est la ville-mère en grec. Si les communes sont un héritage de la Révolution française et un échelon de collectivité bien connu des citoyens, que signifie le mot et la notion de métropole pour chacun d'entre nous ? Que nous apporte la création des métropoles ? Comment comprendre leur fonctionnement et s'y identifier ? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions lors de cette émission. Pour en parler avec nous et éclaircir notre lanterne, nous avons invité Sacha Briand, vice-président de Toulouse Métropole pour les finances, adjoint au maire de Toulouse délégué aux finances, conseiller régional et bien d'autres choses encore. Sacha Briand, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet et pour mieux faire votre connaissance, une petite curiosité de ma part. Je viens d'énumérer tous les mandats importants que vous exercez actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, très rapidement, quel parcours vous y a amené ?
Écoutez, je suis arrivé à Toulouse, moi, en 1987, pour entrer à la faculté de droit, à ce qu'on appelle Toulouse Capitole aujourd'hui. Je me suis intéressé à l'action politique, à la vie politique. Et lorsque, après mon service militaire, j'ai fait le choix de revenir vivre et travailler sur l'agglomération toulousaine, je me suis installé à Blagnac. Et j'ai très rapidement, dès 1995, commencé à m'impliquer. Pendant 18 ans comme conseiller municipal dans l'opposition à Blagnac. Et en 2014, j'ai rejoint Jean-Luc Moudenc pour les élections municipales avec le succès que nous connaissons.
Alors, vous avez également un cabinet d'avocats et j'ai vu entre autres que dans les activités de ce cabinet, vous avez une activité de formation des élus. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il retourne ?
Alors, pour pouvoir délivrer de la formation aux élus, il faut un agrément du ministère de l'Intérieur. Et effectivement, déjà quand j'étais en fac, je participais à des actions de formation et j'ai développé une activité de formation pour les élus, enrichi par une triple expérience. J'ai été pendant 10 ans directeur général dans une collectivité. Je suis depuis 10 ans avocat et j'ai par ailleurs un parcours d'élu qui me permet de donner une vision, une compréhension des problématiques aux élus locaux.
Voilà, quand j'avais dit qu'il faisait encore bien d'autres choses en dehors de ses mandats, je ne me suis pas trompé. À nos côtés dans ce studio, il y a bien sûr Corinne Saint-Félix, que vous avez maintenant l'habitude de retrouver chaque semaine pour son flash d'information métropolitaine. Quels sont les principaux faits d'actualité de la semaine dans la métropole ? On en parle dans quelques instants avec elle. Métropolez-vous, l'actu. Et on commence avec le deuxième appel à projet de l'incubateur social métropolitain qui vient d'être lancé.
En 2015, le premier appel à projet de cet incubateur appelé Première Brique a intégré 9 nouveaux projets sur des thèmes très divers, habitat démontable en bois de récupération, supermarché coopératif, jardin potager en entreprise, halte-garderie à horaires décalés ou encore coopérative de production d'énergie renouvelable. Ces projets innovants doivent combiner l'intérêt général et l'efficacité économique. L'incubateur d'innovation sociale lance donc un second appel à projet du 11 octobre. Au 20 novembre 2016, il cite 3 grandes thématiques qui doivent répondre aux enjeux de la métropole toulousaine et plus globalement aux enjeux du territoire national, à savoir les fragilités sociales, la gestion des ressources et l'artisanat vu autrement.
Et qui peut candidater ?
Alors tous ceux qui sont de bonne volonté, des personnes ayant la volonté de créer un projet collectif, des personnes morales comme les entreprises, les associations ou encore les collectifs d'entreprises qui souhaitent diversifier leur activité ou développer un nouveau projet, et des entreprises sociales qui ont démontré leur concept sur un autre territoire et qui souhaitent s'implanter sur la métropole toulousaine. Les projets retenus bénéficieront d'un accompagnement sur mesure de 6 à 18 mois selon le besoin et la maturité de l'idée. Les dossiers présentés doivent concerner des projets initiés et développés sur le territoire de la métropole toulousaine avec un potentiel de création d'au moins 5 emplois en 3 ans. Le dossier d'inscription est à télécharger en ligne sur première-brique.fr.
La participation citoyenne prend plusieurs formes, qu'elle soit réglementaire ou pas, consultation, concertation et enquête publique.
Et dès aujourd'hui s'ouvre une enquête publique sur le projet de première révision du schéma de cohérence territoriale, le SCOT de la grande agglomération toulousaine. Vous pouvez y participer jusqu'au vendredi 18 novembre à 17h. Cadre de vie, urbanisme, habitat, paysage, espaces verts, services publics, commerce, équipement de proximité ou encore aménagement d'un quartier ou la naissance d'un projet urbain. Sur toutes ces thématiques, elles sont nombreuses, votre avis est pris en compte. La période de concertation permet aux citoyens de s'exprimer à travers le registre papier, les réunions publiques et les expositions. Désormais, vous pouvez donner votre avis en ligne grâce à un nouvel outil, le registre dématérialisé. Il permet de recueillir sur le site www.toulouse-métropole.fr les contributions et les avis des citoyens dans le cadre de ces concertations, obligatoires ou pas, pour les différents types de grands projets d'aménagement.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples,
Corinne ? Alors oui, parmi les registres dématérialisés ouverts, il y a le projet Grand Saint-Cernin, le plan local d'urbanisme intercommunal Habitat ou encore le règlement de publicité intercommunale. Et parmi ceux qui sont clos et dont les chantiers ont commencé, le projet d'aménagement de Remblas sur les allées Jean Jaurès ou encore le projet Toulouse Euro-Sud-Ouest.
Il y a non pas de l'eau dans le gaz, mais du gaz dans l'air. Et pour une fois, c'est dans le bon sens.
Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, et Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, ont signé une convention de partenariat mobilité durable pour les développements et l'offre gaz naturel véhicule, le bio-GNV. Cette convention doit durer 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019. Suite à cette signature, la première station publique de distribution de gaz naturel véhicule de la Métropole a été inaugurée, c'est sur le site de GRDF, au 16 rue de Sébastopol. Cette station est mise à disposition des entreprises et des particuliers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Et c'est une mesure qui s'inscrit dans la politique de Toulouse Métropole.
L'objectif, favoriser l'injection du biométhane dans l'actuel réseau de distribution. Le réseau de distribution de gaz naturel est la propriété de Toulouse Métropole et GRDF assure la distribution dans 35 communes de la métropole à travers un réseau de près de 2500 km. La signature de cette convention répond aux enjeux prioritaires liés à la mobilité durable et au plan climat-énergie territorial sur la préservation de la qualité de l'air, l'adaptation au changement climatique et la transmission énergétique pour la croissance verte.
Et maintenant, un feuilleton qui n'en finit pas, c'est celui de l'état de la pelouse du stadium. On en est où maintenant, Corinne ?
Eh bien, finalement, après moult péripéties, le stadium a changé de pelouse. Pour mémoire, certaines zones de la pelouse du stadium ont subi les attaques d'un champignon. Le pythium qui a altéré par endroits sa qualité et sa couleur. Une fois le champignon éradiqué, la pelouse devait retrouver ses qualités et sa couleur habituelle telle qu'on a pu le voir lors de l'Euro 2016.
Certes, sauf que...
les soins apportés après les attaques du champignon ont été efficaces, mais depuis la pelouse est attaquée par une nouvelle bactérie, le Xanthomonas translucens, qui a nécessité le replaçage total du gazon toulousain. Le coût prévisionnel de l'opération, 460 000 euros. La collectivité avait déjà provisionné la somme de 300 000 euros au cas où un remplaçage aurait été nécessaire pendant l'Euro 2016.
Et pour prendre soin de cette nouvelle pelouse, un match de rugby prévu initialement au stadium aura finalement lieu à Ernest Vallon.
Histoire de préserver cette pelouse, le match de Coupe d'Europe de rugby opposant le Stade toulousain au Wasp de Londres aura finalement lieu au stade Ernest Vallon le 23 octobre. Le stadium retrouvera les amateurs de ballon ovale le 12 novembre. Le 15 de France doit y jouer le premier de ces trois test matchs d'automne, ce sera contre les Samoa.
Le stadium, c'est un équipement, il appartient à la ville de Toulouse ou à Toulouse Métropole ?
Il appartient à la ville de Toulouse, mais il a fait l'objet d'un transfert de compétences à Toulouse Métropole, puisque nous avons souhaité, avec le Zénith, avec un certain nombre d'équipements comme le muséum, le parc des expositions, etc., confier à Toulouse Métropole les équipements qui ont une véritable vocation métropolitaine.
Alors voilà qui nous amène tout naturellement à notre grand sujet du jour. La métropole, qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi ?
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Pour comprendre le présent et même l'avenir, il faut souvent se plonger dans le passé. Sacha Briand, si l'on se plonge un peu dans l'histoire pour comprendre ce que sont les métropoles aujourd'hui, que trouve-t-on à l'origine de leur constitution? Qu'est-ce qui a amené des villes à se rassembler à un moment donné?
Alors, je vais faire très rapidement un peu d'histoire, mais c'est le général de Gaulle en 59 qui a lancé les premières structures intercommunales au-delà de la commune. Et puis, très rapidement, dans les années 70, à l'occasion de la construction européenne, le gouvernement français s'est rendu compte qu'il y avait plus en France de structures communales qu'il n'y en avait dans tous les autres pays de l'Europe réunis. Et donc, pour le gouvernement, ça a été une volonté de rassembler. Il y a eu des étapes ratées, la fusion des communes. On en a quand même, hein, Lavernos-Lacasse, Quinfonce-Griffe, ce sont des communes fusionnées. Mais il y en a eu très peu. Et puis, c'est en vérité, à partir de 1992, grâce à une incitation financière, que plusieurs textes se succédant, 92, 99, 2002, etc., ont relancé la démarche intercommunale. L'idée, c'est de regrouper les communes, parce que 36 000 communes, bah, c'est forcément 32 000 communes de moins de 2 000 habitants, hein, des communes qui ont peu de moyens pour faire face à l'augmentation de leurs compétences. Hein. Il y a 50 ans, elles faisaient pas grand-chose, les communes. Ouais. Aujourd'hui, elles sont compétentes dans l'urbanisme, l'aménagement et le transport. C'est compliqué, il faut une taille critique. Et donc, ça a été de regrouper pour avoir ces tailles critiques. Et aujourd'hui, ça aboutit, pour ce qui est de notre agglomération, à l'étape supérieure, c'est la métropole.
Alors, après ce rappel historique très précis et nécessaire, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre des citoyens métropolitains. Nous leur avons posé quelques questions pour savoir quelles connaissances et quelle image ils avaient de Toulouse Métropole. Et justement, vous allez voir en écoutant ce micro-trottoir que les choses ne sont pas encore vraiment claires pour tout le monde. La première question que nous avons posée était très simple. Qu'est-ce qu'évoque Toulouse Métropole pour vous? Voici les réponses que nous avons recueillies.
Une grande agglomération, c'est-à-dire Toulouse et ses banlieues.
Mais alors, c'est ça que je comprends pas, c'est quoi Toulouse Métropole? Je suis perdue.
Ah oui, donc c'était le Grand Toulouse.
Toulouse, la périphérie et tout ce que ça englobe au niveau partenariat, je dirais.
Ça évoque les villes qui s'associent à Toulouse, quoi.
Est-ce que vous savez qui en est le président?
Non, pas du tout, non.
Je dirais le maire de Toulouse.
Et que savez-vous des domaines de compétences ainsi que les missions en fait de ce Toulouse Métropole?
Je sais moi pour les transports, parce que comme je travaille à TCO, je sais que pour les transports c'est Toulouse Métropole.
Ça, je me pose des questions au niveau des services, j'ai l'impression qu'il y a des doublons. Et qu'il y a des gens qui travaillent dans des bureaux et qui font la même chose ailleurs.
La nouvelle ligne de métro, ce qui va être aussi le périph, tout ce qui est alimentation d'eau, tout ça.
Est-ce que vous vous sentez citoyen de Toulouse Métropole?
De Toulouse Métropole, pas tellement. Je me sens plutôt citoyen de Toulouse, c'est tout.
Je suis pour justement cette métropole, c'est quelque chose de bien mieux que d'être seulement dans une commune et se cantonner avec une seule chose, alors qu'on peut faire plus grand chose avec plus de personnes.
C'est Toulouse qui va avoir un budget plus important et donc plus de poids dans la région.
Plus d'impôts.
Métropole et vous ? Micro-trottoir.
Alors voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans, on va peut-être se concentrer sur quelques-unes, mais globalement, après avoir écouté ce micro-trottoir, les réponses aux différentes questions qu'on a posées, quelles conclusions vous en tirez?
D'abord, qu'on a un gros travail d'explication à faire, mais je suis aussi président du groupe majoritaire à la métropole, et la particularité de notre action avec nos collaborateurs, c'est qu'on fait des actions par téléphone, pour expliquer aux gens ce que Toulouse Métropole fait. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'explications à apporter.
Alors des actions par téléphone, excusez-moi, qu'est-ce que c'est précisément?
Eh bien, nous avons dans nos équipes de collaborateurs, puisque nous sommes à ce qu'on appelle un groupe politique, comme tous les autres, eh bien on a un certain nombre de collaborateurs qui travaillent avec nous, et on fait des campagnes de phoning auprès des gens pour les informer sur les actions de Toulouse Métropole et pour avoir leur retour aussi sur les politiques qui sont menées.
D'accord, alors autre question que nous avons posée, quand on dit qu'est-ce qu'évoque Toulouse Métropole pour vous, on voit que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est, ça vous étonne ou pas ça?
Non, d'abord, d'une certaine manière c'est bien, parce que quand on transfère une compétence, l'eau, l'assainissement, les déchets ménagers, la voirie, eh bien il faut continuer à le faire dans les meilleures conditions possibles, et si les gens ne se rendent pas compte que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça veut dire que c'est au moins fait aussi bien que ce que c'était fait précédemment. Et en même temps, il faut qu'on travaille sur l'identification de la métropole pour que les gens comprennent bien qu'il y a la commune qui s'occupe des domaines communaux, et la métropole qui s'occupe des compétences métropolitaines. Et là, je le dis à votre auditeur qui s'inquiétait des doublons, il n'y a pas de doublons. Ce que fait l'un, l'autre ne le fait plus.
Et ça, c'est vrai pour la commune, pour les communes qui sont dans la métropole et la métropole. Mais est-ce que c'est vrai aussi pour la métropole et le département, par exemple?
Alors, le système français est ainsi fait qu'il y a la région, le département et ce qu'on appelle le bloc communal. Commune, Les communautés et les métropoles. Le département, il a des compétences spécifiques, la région également. Ça a été modifié d'ailleurs récemment par la loi NOTRe et la loi MAPTAM. Et nous avons récupéré quelques compétences, nous allons récupérer quelques compétences du département, notamment les voiries départementales sur le territoire de Toulouse Métropole.
Autre question qui était posée dans ce micro-trottoir, qu'est-ce que ça va apporter, selon vous, la création des métropoles, donc de Toulouse Métropole en particulier? Il y avait une personne qui voyait ça sous un angle très positif, apporter, comme vous le disiez tout à l'heure, une espèce de taille critique supérieure. Je parlais du niveau mondial, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais vous allez me le dire. Et puis, il y avait une autre personne qui a répondu, plus d'impôts. Alors, premier volet, si je puis dire, est-ce que ça va donner effectivement une taille critique?
Alors, une taille critique, assurément. Vous savez, nous travaillons sur la troisième ligne de métro. Aujourd'hui, plus personne n'est capable de construire une troisième ligne de métro, une ligne de métro en France. Et nous sommes la seule métropole à porter un tel projet. Toulouse seule ne pourrait pas le faire. L'ensemble des communes au sein de Toulouse Métropole peut le faire. Et ça contribue, bien sûr, sur un territoire limité. Le métro, il peut pas aller dans la campagne. Mais ça contribuera à améliorer les déplacements. 200 000 voyages par jour, 48% des emplois de l'agglomération desservis.
Et alors, plus d'impôts, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors, moi, j'aimerais que, quand on se regroupe à 37, on puisse à faire des économies d'échelle. On en parle souvent.
Oui.
Mais la vérité, c'est que quand on est à 37, on met les 37 au niveau de celui qui faisait les choses le mieux. Et souvent, eh ben, ça coûte plus cher. Donc, on essaye, par les économies, par l'optimisation de la gestion, de faire les choses dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que dans le contexte qui était le nôtre avec la baisse des dotations de l'État, eh bien, nous sommes dans une situation qui nous a amené, c'est vrai, à décider d'une évolution fiscale pour financer un programme d'investissement d'1,4 milliard d'euros dans la vie quotidienne des gens. C'est 500 millions pour la voirie, c'est le financement du programme de transport en commun, c'est également le développement économique avec l'IRT et donc des emplois à la clé, c'est l'ensemble des actions de la métropole dans tous les domaines, 1,5 milliard. Nous sommes la seule métropole en France à avoir un tel programme.
Alors vous citiez tout à l'heure le chiffre de 37 communes aujourd'hui dans la métropole, hein, ça c'est 2015, on a commencé à 13, c'était le district, hein, 92 vous avez cité la date, puis il y en a eu 21, 25, aujourd'hui 37. Sur quels critères est basé le périmètre de cette métropole? Comment une commune va appartenir à la métropole ou pas d'ailleurs?
À l'origine, ça a été un peu, on va dire, comme ça. Voilà, par affinité, on va dire. Et puis, progressivement, ça s'est développé au fil des opportunités, des évolutions, parce qu'il y avait des communautés de communes qui se constituaient en périphérie et qu'il y avait des communes isolées entre les deux. Et puis, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il y en a eu un en 2010. On vient d'en élaborer un sous l'autorité du préfet qui propose des regroupements. Cette année, nous n'avons pas été concernés. La dernière évolution date de 2012, effectivement, porte à 37, avec un territoire très large.
Oui, très vaste.
Et
oui.
Probablement que c'est un territoire qui est mature aujourd'hui et qu'il faut, à côté du Sicoval, de la communauté d'agglomération du Mirotin qui elle-même s'étend, et bien, trouver un bon équilibre dans cette agglomération.
Est-ce qu'une commune peut refuser d'appartenir à la métropole ou décider d'en sortir?
En principe, oui. En réalité, non. Et notamment, lorsqu'on est dans un schéma départemental de coopération intercommunale, on est un peu sur le mariage forcé.
Les élus de Toulouse Métropole sont 134. Qui sont-ils?
Ce sont des élus issus des communes. Et lorsque les électeurs des 37 communes ont voté en mars 2014, sur le bulletin, ils se rappellent peut-être, il y avait d'une part les candidats au conseil municipal et les mêmes candidats, certains en tout cas, identifiés comme étant les candidats pour les sièges dont dispose la commune au sein du conseil de métropole. Et chaque commune a un nombre de sièges en fonction de sa population. Toulouse, qui représente 2/3 de la population, n'a cependant que la moitié des sièges, c'est plafonné. Et après, les autres communes, eh bien, c'est par exemple 5 sièges pour Blagnac, il y en a 7 ou 8 pour Colomiers. La plupart des communes en ont un ou deux.
Alors le rôle de ces élus, c'est quoi précisément lorsqu'ils sont élus de la métropole?
C'est le même rôle que les conseillers municipaux dans le conseil municipal, c'est de contribuer au débat et au vote des délibérations. Mais comme je disais tout à l'heure, les communes font leurs compétences, la métropole les siennes, et donc c'est de voter les délibérations et de préparer les délibérations du conseil de métropole.
Ils sont répartis, je suppose, dans ce qu'on pourrait appeler des groupes, des commissions plutôt. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ça?
Alors, il y a effectivement, comme dans les conseils municipaux, des commissions sectorielles. Il y a la commission finances, la commission de voirie, la commission logement, la commission cohésion sociale, la cohésion environnement, sport, etc. Donc, il y a toute une série qui correspond aux compétences de Toulouse Métropole. Et après, il y a au sein du conseil de métropole également les groupes politiques. Je le disais, j'ai le plaisir d'être le président du groupe majoritaire. Il y a le groupe des indépendants, il y a le groupe socialiste, il y a le groupe radical, et il y a le groupe écologiste et un groupe aussi Front de Gauche.
Alors, dans ces commissions, ces commissions sont dédiées à des domaines de compétences, justement. En tout cas, je vais parler de responsabilité, de mission plutôt. Combien y en a-t-il?
Il y en a une quinzaine, ouais. On va dire une quinzaine. Mais après, vous savez, il y a l'environnement, c'est transversal. Ouais. Il y a à peu près une quinzaine de grands pôles d'activité.
Alors, on reviendra, je pense, dans une autre émission sur ces domaines de compétences un par un. Vous parliez tout à l'heure des relations entre la métropole et les communautés de communes avoisinantes. Vous avez parlé du Sicoval. Comment ça fonctionne? Il y a vraiment des liens très précis ou c'est très séparé, en fait?
Longtemps, il y a eu une espèce de vie séparée de ces structures. Mmh. Mais l'évolution de la réglementation a amené ces collectivités à se parler. Par exemple, en matière d'urbanisme, il existe ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale qui conditionne les éléments qui vont après être intégrés dans le plan local d'urbanisme, le PLU, et donc les questions de constructibilité et d'urbanisme. Et donc ces SCOT, comme le PDU, le plan de déplacement urbain, eh bien ce sont des schémas qui se font à une grande échelle. Et donc pour l'élaboration de ces documents qui sont déterminants en termes d'aménagement et de développement, eh bien c'est un travail qui se fait au-delà de ces trois seules collectivités, avec un certain nombre de collectivités, toutes les rues urbaines.
On parle souvent du millefeuille administratif français, et même au niveau des collectivités territoriales. Donc là, on a créé les métropoles, en plus, qui sont des espèces de super communautés de communes. Il y a toujours le département, il y a les régions qui vont être étendues. La métropole là-dedans, la métropole de Toulouse en particulier, qu'est-ce qu'elle pèse?
Alors, vous avez raison de parler de millefeuille, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y a trop de collectivités. Oui. Depuis lors, on a créé les structures intercommunales.
Oui.
C'est quand même une spécificité française. Mais ça doit permettre à terme, je le pense, dans l'esprit du gouvernement, des gouvernements successifs, eh bien de modifier un peu la position des communes par rapport. Hein, et on parle des communes nouvelles, des questions de fusion, etc. Bon. Le département, la région, c'est historique. C'est comme ça. La fusion des régions vient d'être réalisée, elle va se mettre en œuvre. La question fondamentalement, c'est où se situe le département, puisque le président de la République avait annoncé sa disparition,
oui.
Puis il est revenu dessus.
Oui.
Bon, moi je pense que nous avons des territoires différents en France, des territoires urbains, des territoires ruraux. Et il faut probablement que le rôle du département soit plus important dans les territoires ruraux que sur les territoires urbains. Le rôle de la région est plus fortement marqué sur les compétences à destination des territoires urbains que des territoires ruraux. Donc il y a un travail de concertation à faire pour adapter ces situations. Mais nous avons en France un réflexe qui consiste à avoir en tout point du territoire, quel qu'il soit, la même organisation administrative. Peut-être qu'un jour, on aura une situation administrative différenciée en fonction des territoires.
Alors un point qu'il faut bien aborder aussi, c'est le budget des métropoles. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre de 1,5 milliard. Je crois que c'est le double...
D'investissement.
C'est le double à peu près de celui de la ville de Toulouse?
Approximativement. La ville de Toulouse, disons qu'en fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, oui, c'est à peu près équivalent. 650 millions d'un côté, 800 de l'autre. Et en investissement, c'est 120 millions par an pour la ville, c'est 240 pour la métropole.
Alors ce budget, comment est-il alimenté? Quelles sont les ressources? Il y a l'impôt, bien sûr, mais encore...
L'impôt surtout.
Oui.
Vous le savez, avec la baisse des dotations de l'État, à la métropole par exemple, nous avions 43 millions de dotations globales de fonctionnement de l'État,
oui,
chaque année.
Oui.
À la fin de l'année prochaine, nous serons à 10. Et si la deuxième part de la réduction décalée par le président de la République intervient, nous n'aurons quasiment plus de dotation. Donc, il n'y aura plus que les recettes fiscales. C'est la taxe d'habitation, une partie de la taxe d'habitation, une partie de la taxe foncière que payent les propriétaires, une partie de l'impôt des entreprises, ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises, et la cotisation sur la valeur ajoutée. Tout ça est très compliqué. C'est les entreprises et les ménages qui financent une structure qui exerce des compétences à destination des particuliers, mais également des entreprises.
Donc les citoyens payent directement un impôt à la métropole.
Absolument.
Parce que ça, c'était une autre question. Alors, la répartition du budget entre le fonctionnement et les investissements.
Alors,
à peu de choses près.
Le budget de la métropole, c'est à peu près 800 millions, mais il faut savoir qu'il y a là-dedans la moitié qui est reversée aux communes. Puisque à l'origine, la taxe professionnelle, qui était un impôt sur les entreprises perçue par les communes, a été totalement transférée à la métropole, mais qui bien sûr a rendu une espèce de pension alimentaire aux communes, qui sinon auraient été en liquidation. Et donc on reverse la moitié. Donc on a en fait 400 millions, Sur ces 400 millions, on a 100 millions qui vont au syndicat des transports. Et le reste, c'est les politiques directement exercées par 12 métropoles, les déchets, mais également l'eau, l'assainissement, le développement économique, l'habitat, etc.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et informations, Sacha Briand. J'espère que nous aurons rendu les choses un peu plus claires pour nos auditeurs, qu'ils en savent maintenant plus sur Toulouse Métropole. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.